الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 28 من شهر صفر عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 39 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 20 décembre 2014 et nous entrons aujourd'hui dans le 39e cours de l'étude de ce livre dans la vie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. À travers le dernier cours, nous avons parlé de toutes ces délégations envoyées par ces différentes tribus pour professer l'attestation de foi et donc annoncer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux croyants, que toutes ces tribus maintenant sont croyantes et qu'elles ont adhéré à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci, bien sûr, après des épreuves rencontrées par les compagnons, après des efforts fournis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si bien que beaucoup d'entre eux en ont perdu la vie ou bien ont perdu la vie des leurs ou de leurs proches. Tout ceci pour arriver à ce résultat qui est flagrant et qui est l'entrée de la plupart des gens maintenant dans la religion d'Allah azza wa jal. C'est à ce sujet qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé d'ailleurs surat An-Nasr, le secours. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque le secours d'Allah vient et sa victoire. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et que tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah en masse ou bien en groupe. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Proclame alors que ton Seigneur est exempt de tout défaut en le louant et implore son pardon. Innahu kana tawwab. Certes, il est accueillant au repentir. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, un des compagnons fut interrogé au sujet de ce verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'ailleurs, plusieurs compagnons ont été interrogés sur le sens de cette sourate. Chacun a répondu. Quand un a dit, cette sourate annonce la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment a-t-il pu comprendre cela? Car Allah azza wa jal a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam pour prêcher à l'islam. Son but était d'appeler les gens à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et après toutes ces années d'efforts, de difficultés rencontrées, d'épreuve, Allah Azza wa Jal révèle cette sourate pour annoncer que les gens maintenant vont entrer en masse dans la religion d'Allah. Ce qui veut dire que la mission est remplie. Et c'est à partir de là que ce compagnon, radiyallahu anhu, a compris que cette sourate annonce la mort proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est peut-être ce qu'on verra par la suite, incha'Allah ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers le pèlerinage, ceci en l'an 10 de l'Hégire. Et c'est pour cela que les savants, les historiens, ont appelé ce pèlerinage Hajjatul Wada', ce qui veut dire le pèlerinage de l'adieu. Pourquoi? Parce que c'est celui que va effectuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lequel il va présenter ses adieux à ces gens qui l'ont tant accompagné, qui l'ont tant secouru, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum jami'a. C'est aussi au cours de ce pèlerinage qu'il va s'adresser à eux en les exhortant, en leur laissant ses dernières recommandations, alayhi salatu wa salam. Et lorsque nous disons le pèlerinage d'adieu, cela ne veut pas dire que le prophète alayhi salatu wa salam a accompli plusieurs fois le pèlerinage, parmi lesquels le dernier qui est le pèlerinage d'adieu. Le prophète n'a accompli le pèlerinage que une seule fois. La Umra, quatre fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ceci a eu lieu en l'an 10 de l'Hégire. En l'an 10. Et beaucoup de musulmans ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point où certains historiens ont retenu que le nombre des personnes ayant accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de 100 000. Ils voulaient tous participer avec lui. Quand ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour sortir et aller accomplir le hajj, le pèlerinage, imaginez-vous que vous avez l'occasion d'accompagner une noble personne parmi les savants de l'islam, parmi les savants de la sunna. On vous dit que vous pouvez aller accomplir le hajj avec tel et tel parmi les grands savants de la communauté dont le travail est connu et dont les efforts qu'il a fournis sont très connus et sont répandus dans la communauté. Eh bien, que dire alors du messager alayhi salatu wassalam? Donc 100 000 personnes se sont réunies et ont voulu participer à ce pèlerinage de Médine en direction de Mecca en accompagnant le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit Faslun يذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته فنقول وبالله التوفيق صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة عشر بالمدينة ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة. ابن كثير دي le pèlerinage d'adieu avec l'aide et l'assistance d'Allah sera décrit dans ce chapitre de façon succincte le pèlerinage au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses adieux à sa nation. 6 jours avant la fin du mois de Dhul-Qi'da, de l'an 10 de l'Hégire, un jeudi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dirigea à Médine la prière du Dhuhr avant de quitter la ville accompagné des musulmans de Médine et des bédouins qui s'étaient joints à lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, 6 jours avant la fin du mois de Dhul-Qi'da, en l'an 10 de l'émigration, ce jour était un jeudi, sort pour aller accomplir le pèlerinage. Cet avis, parmi les historiens qui disent que ce jour fut le jeudi, est l'avis de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah. Mais l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, « Kana yawm al-sabti li khamsin baqin » qu'en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti le samedi, alors qu'il restait 5 jours du mois de Dhul-Hijjah. Lorsque nous disons 5 jours, c'est-à-dire qu'on était le 25. Car dans le mois lunaire, il y a 29 ou 30 jours. Donc nous étions le 25, le samedi 25 du mois de Dhul-Hijjah, de l'an 10 de l'émigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dhul-Qi'da, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir de Médine et va se diriger par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala à Mecca pour aller y accomplir le pèlerinage. des bédouins se sont réunis pour participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit, il dirigea ensuite la prière du Asr de 2 rak'ah seulement à Dhul Hulayfa où il passa la nuit. Donc il quitte Médine, il s'arrête vers cet endroit qui est connu sous le nom de Dhul Hulayfa, qui est un miqat, c'est-à-dire un point de départ. Car la Umra et le pèlerinage ont des points de départ. Ils peuvent être temporels et ils peuvent être géographiques. Ici, nous parlons du point de départ de la Umra géographique. C'est un endroit qui s'appelle Dhul Hulayfa et qui se trouve vers la sortie de Médine. Et c'est d'ailleurs là-bas que se rendent les pèlerins et ceux qui accomplissent la Umra jusqu'à nos jours pour démarrer de là-bas et entrer dans ce qu'on va appeler l'état de sacralisation, l'état qui fait entrer la personne dans ce rite qui est celui de la Umra ou du Hajj. Le prophète alayhi salatu wasalam s'est arrêté donc à cet endroit-là et il y a prié la prière du Asr en 2 rak'ah. Pourquoi ? Car le voyageur réduit le nombre de rak'ah, d'unités de prière. Nous parlons des prières qui sont composées de 4 unités. Il les réduit à 2 unités de prière tout au long du voyage. À cet endroit, dans la vallée appelée Al-Aqiq, il reçut la visite d'un messager de son Seigneur Tout-Puissant qui lui ordonna d'accomplir une umra en même temps que le Hajj. Allah Azza wa Jal lui a envoyé ou l'a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer ce qu'il va accomplir comme rite. Car dans le pèlerinage, il y a 3 façons différentes de l'accomplir. Il y a ce qu'on appelle Al-Qiran, qui consiste à faire une umra suivie du pèlerinage sans sortir de l'état de sacralisation entre les 2 actes, la umra et le pèlerinage. L'état de sacralisation, c'est un état dans lequel des choses qui étaient licites avant deviennent interdites pendant ce moment. Donc, il ne sort pas de l'état de sacralisation. Deuxième façon d'accomplir le pèlerinage, c'est ce que font la plupart des gens, at-tamattu', qui consiste à faire la umra, puis sortir de l'état de sacralisation, et donc revoir ce qui était licite. Et enfin, lorsque la date du pèlerinage arrive, recommencer à entrer dans l'état de sacralisation pour accomplir le pèlerinage jusqu'à la fin. Troisième façon d'accomplir le pèlerinage, c'est al-ifrad, c'est le fait de faire simplement un hajj sans accomplir de umrah. Il y a donc 3 façons qui sont toutes légiférées, et qui sont différentes dans leur forme, et également les savants ont divergé sur quelle est la meilleure. Car celui qui a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins a transmis au prophète qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné de faire un pèlerinage dans la umra. Ce qui veut dire quelle forme? La première. Il fait la umra, il ne sort pas de l'état de sacralisation, puis il fait le pèlerinage. Donc certains ont dit que c'est cette manière de faire qui est mieux puisque c'est celle qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous allez voir que d'autres preuves montrent que ce n'est pas le meilleur car le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam va conseiller à ses compagnons de faire ce que la plupart des gens font au jour d'aujourd'hui, la umra, ils sortent de l'état de sacralisation et ensuite ils font al-hajj. ومعنى هذا أن الله أمره بأن يقرن الحج مع العمرة فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك. Au matin, il en informa les musulmans, alayhi salatu wassalam. Il informe les musulmans du rite que lui va accomplir, alayhi salatu wassalam. وطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن 9 وقيل 11 ثم اغتسل وصلى عند المسجد 2 ركعتين وأهل بحجة وعمرة مع هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. Cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut des rapports avec ses épouses qui étaient au nombre de 9 ou de 11 selon les sources. Le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, dit que il en avait 9, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il en a eu 9 en même temps. Et ceci est une particularité au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et personne n'a le droit de le suivre dans cela. De le suivre dans cela. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu des rapports avec ses 9 épouses pendant la même nuit, alayhi salatu wassalam. Il effectua un roussel qu'à la fin de tous ses rapports. Le roussel, c'est le bain, la purification pour sortir de l'état d'impureté majeure qui est à cause de justement des rapports. Après le roussel, il effectua une prière de 2 rak'a à la mosquée, puis se mit en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir une umra en même temps que le pèlerinage. C'est-à-dire que, après tout ce que vous venez d'entendre, il entre dans cette mosquée et il y accomplit 2 unités de prière, puis il dit « Labbaik Allahumma umra, umra fi hajja. Oh Allah, me voici venu accomplir la Umra et le Hajj. » C'est avec cette parole que le pèlerin entre en état de sacralisation et donc s'interdit certaines choses qu'il n'a pas le droit de faire pendant l'accomplissement du rite. À l'image du premier Takbiratul Ihram, le premier Allahu Akbar de la prière, lorsque tu le prononces, tu t'interdis de parler, de rire, de manger, jusqu'à que tu salues et tu sortes de cette prière. Eh bien, il en est de même pour la Umra. Lorsque tu vas prononcer cette parole, il y a des choses qui vont être interdites. C'est pour ça qu'on appelle l'état de sacralisation. C'est-à-dire que ces choses sont sacrées. Tu n'as pas le droit d'y toucher, tu n'as pas le droit de les faire jusqu'à ce que tu sortes de cet état. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci fait partie de la sunna et peu sont ceux qui connaissent, a dit Allahumma ja'alha hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, fais que ceci soit un pèlerinage sans ostentation et recherche de la renommée. Donc avant même d'entamer les rites, alayhi salatu wa salam, il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder ce don, ce bienfait qui est la sincérité, d'être véridique. Oh Allah, fais que ce pèlerinage soit accompli, ayant pour but ta satisfaction et rien d'autre que cela. Et ce fait partie de la sunna, comme a dit le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, même pendant la umra, de prononcer cette parole. Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, fais-en une umra dénuée de toute ostentation et de recherche de la renommée. Et également, ça nous montre l'importance de la sincérité avant les actes. Et le prophète est un imam, sallallahu alayhi wa sallam, il est un guide. C'est lui qui va enseigner à la communauté la façon d'agir, la façon de pratiquer, la façon de parler, et même ce que nous devons avoir comme conviction dans le cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir a dit, ceci est rapporté par moins de 16 compagnons. Par pas moins de 16 compagnons, dont son serviteur, je dirais plutôt son servant, Anas ibn Malik, radiyallahu an, ainsi que 16 tabi'i. Celui qui est appelé tabi'i chez les savants, c'est celui qui a vécu avec des compagnons et qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il était mort. C'est donc la deuxième génération de l'islam. Donc 16 compagnons et 16 parmi la deuxième génération ont tous apporté cette information. En outre, ces récits sont parfaitement clairs, n'admettant aucune interprétation plausible, c'est-à-dire quant au choix ou quant au rite qu'a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au récit qui semble indiquer qu'il effectua un hajj dit tamattu', donc la umra et ensuite le hajj séparé, ou ifrad, le hajj individuellement, leur analyse n'a pas lieu d'être traitée ici. D'ailleurs, le hajj dit qiran, c'est-à-dire avec la umra attachée, est le meilleur des pèlerinages pour l'imam Abu Hanifa et pour l'imam Ahmad et l'imam Abu Abdullah al-Shafi'i, selon l'un des avis attribués à ces deux derniers. والقران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام أبي عبد الله الشافعي وقد نصره جماعة من محققي الأصحاب وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها ومن العلماء من أوجبه والله أعلم. Il dit, رحمه الله, le hajj dit de Qiran est le meilleur des pèlerinages pour Abu Hanifa, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, selon l'un des avis attribués à ces deux derniers. Cet avis, retenu également par certains des tenants de l'école de l'imam Shafi'i, a le mérite de concilier les différents hadiths relatifs à ce sujet, au point que certains savants de l'islam rendent obligatoire ce type de pèlerinage. Si ce n'est que le Cheikh Abd al-Razzaq, Ibn Abd al-Muhsin, hafidhahullah, a dit qu'en réalité, le meilleur pèlerinage, c'est At-Tamattu', c'est de le faire séparément, c'est-à-dire la Umra, puis sortir de la sacralisation, puis, lorsque la date du Hajj vient, entrer à nouveau en sacralisation et alors accomplir les rites du pèlerinage. Ceux qui ont cet avis ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il n'avait pas amené avec lui la bête qui doit être sacrifiée le jour du rite, alors il aurait changé son rite. C'est-à-dire qu'il serait passé du qiran, ce qu'il a fait, au tamattu', umra et hajj séparés. Ce qui l'a empêché de revenir à cette deuxième façon, c'est qu'il avait pris avec lui de la Mecque à Médine la bête à sacrifier. Et donc, comme il prend avec lui la bête à sacrifier, il doit continuer ce rite-là, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a ordonné à ses compagnons qui, eux, n'avaient pas pris la bête à sacrifier, de changer de rite, de rompre la umra après l'avoir effectuée, pour sortir de la sacralisation, et ensuite, lorsque la date du pèlerinage vient, d'accomplir le pèlerinage. Donc le prophète leur a dit de faire ça, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل. Le prophète صلى الله عليه وسلم conduisit donc à partir de ذي الحليفة, le point de départ, les bêtes qu'il devait immoler le jour du sacrifice, et ordonna aux musulmans qui conduisaient avec eux leurs bêtes du sacrifice de se mettre en état de sacralisation comme lui. Donc, il a ordonné aux musulmans qui étaient avec lui et qui avaient des bêtes à sacrifier de rester dans ce rite. Quant aux autres, il leur a dit de sortir et de changer de façon. وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة كلهم قدم ليأتم به sallallahu alayhi wa sallam. Il prit alors la route, entouré des pèlerins, devant ou derrière lui, à sa droite ou à sa gauche, n'oubliez pas qu'ils étaient 100 000, voire plus, innombrables, chacun voulant imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours des rites du pèlerinage. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons la description du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses détails. Car les compagnons qui ont assisté étaient tellement nombreux que chacun a raconté ce qu'il a vu. Et puis en réunissant toutes ces informations, c'est comme si que on était avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith le plus connu dans la description du pèlerinage, c'est celui de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Muslim et qui est long, dans lequel Jabir dit tout ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. Arrivé à la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit les circumambulations d'arrivée. Tawaf al-Qudum. C'est-à-dire que celui qui accomplit la Umrah, lorsqu'il arrive, première chose qu'il fait, tawaf, n'est-ce pas? Il fait les 7 tours autour de la Kaaba. Avant d'accomplir le sa'i entre Safa et Marwa, c'est-à-dire les va-et-vient entre le mont Safa et Marwa. En revanche, il ordonna à ceux des musulmans qui ne conduisaient pas leurs bêtes du sacrifice, de disjoindre leur hajj de leur umrah. Donc, de rompre le rite. C'est-à-dire, après l'avoir terminé, de sortir de la sacralisation et de ne pas y rester. Et donc, de quitter complètement l'état de sacralisation après avoir accompli la umrah, afin d'entrer une nouvelle fois en état de sacralisation pour le pèlerinage avant leur départ pour Mina, le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, car le pèlerinage commence le 8 du mois de Dhul Hijjah. Il leur dit alors, si c'était à refaire, je ne conduirais pas avec moi les bêtes du sacrifice et accomplirais une umrah indépendante du Hajj. C'est de là que ces savants ont dit, la meilleure façon d'accomplir le Hajj, c'est celle-ci. Car même si le prophète alayhi salat wa salam l'a accompli en mode qiran, joint, umrah et hajj, sans les séparer, voyez qu'ici il dit, si c'était à refaire, je ne conduirais pas avec moi les bêtes du sacrifice et accomplirais une umrah indépendante du hajj. Donc, il dit que c'est meilleur de faire ce qu'il vient de dire ici, sallallahu alayhi wa sallam. Fadallaka hadha أنه لم يكن متمتعا قطعا خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. Ces paroles qui indiquent clairement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en train d'accomplir un hajj dit de tamattu', c'est-à-dire joint à une umra, séparé de la umra, contredisent ceux parmi notamment les tenants de l'école de l'imam Ahmad qui prétendent cela. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم بما أهللت قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. En outre, lorsque Ali radiyallahu anhu, en provenance du Yémen, fut interrogé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le type de pèlerinage qu'il accomplissait, il répondit, le même pèlerinage que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci lui dit alors, quant à moi, ayant apporté avec moi les bêtes du sacrifice, j'ai accompli un hajj qiran. Ali radiyallahu anhu, souvenez-vous, a été envoyé au Yémen par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens du livre qui s'y trouvaient à l'islam. Chose qu'il a faite, il s'est rendu au Yémen, a prêché Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont répondu à son appel. Après cela, il est revenu et a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'accomplissement du pèlerinage. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'a interrogé sur le type de pèlerinage qu'il a choisi. Et Ali radiallahu anhu l'informa alors qu'il a choisi celui-même choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا صريح في القران وقدم مع علي رضي الله عنه من اليمن وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا فكان حاصلهما 100 بدنة. Ces paroles sont rapportées notamment par l'imam Abu Daoud à travers une chaîne de narrateurs authentiques. Ce hadith indique clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua un hajj dit qiran. Ceci car les savants ont divergé sur le type de hajj qu'a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous voyez ici clairement que ce qu'il a accompli c'est le qiran. Ali radiallahu anhu apporta également avec lui ses bêtes du sacrifice du Yémen. Car le jour du Eid, celui qui a accompli le hajj, il doit sacrifier une bête. Et cette bête n'a rien à voir avec celle qui est accomplie le même jour, le jour du Eid, qui est la bête du sacrifice, que les gens aussi ici sacrifient. Donc il y a deux choses. Il y a celle qui est générale, qui englobe tout le monde, et il y a celle qui est particulière aux pèlerins. En d'autres termes, le pèlerin, quand il arrive le jour du Eid, il a deux bêtes à sacrifier. Celle qui a un rapport avec son pèlerinage, celle-ci est obligatoire. Et celle qui a un rapport avec le jour du Eid, celle-ci est fortement recommandée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'associa également à ses bêtes, si bien que les deux hommes disposaient de 100 chameaux. Donc les bêtes sont des chameaux. Et lorsque Ali arrive du Yémen, il conduit avec lui des chameaux. Il arrive à Mecca, il joint ce nombre de chameaux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner un total de 100 chameaux. Et quand le Eid va arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va justement procéder au sacrifice des chameaux. Il va les sacrifier un par un, 10, 20, 30, 60. Lorsqu'il arrive à 63, il enlève son couteau et dit à Ali de prendre la relève. Qui peut me dire pourquoi ? Adam, barakallahu fik. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à 63 ans. Et vers la fin de sa vie, il va commencer à préparer ses compagnons, à leur dire « je vais bientôt mourir », tout doucement, parce que les compagnons l'aiment énormément, alayhi salatu wassalam. Et donc, il commence ici, il s'arrête à 63, pour dire « Ali, prends la relève ». Comme si qu'il leur disait, j'ai fait mon travail, j'ai accompli ma mission, j'ai atteint les 63 ans, la mission est accomplie, elle est donc terminée. Si ta mission est accomplie, elle est terminée, qu'est-ce qu'il y a après ? La mort. Alayhi salatu wassalam. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة. Puis le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se rendit à Mina où il passa la nuit, et ce la veille du vendredi 9 du mois de Dhul Hijja. Qu'est-ce que nous avons comme jour le 9 du mois de Dhul Hijja? Le jour de Arafah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à Mina le 8e jour du mois de Dhul Hijja. Il va y passer la nuit. Il va y prier al-Dhuhr en 2 rak'a, al-Asr en 2 rak'a, al-Maghrib en 3, al-Isha en 2. Ensuite la sunna du Witr, puis la prière du Fajr avec sa sunna, et ensuite il va se diriger vers Arafah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est tombé en concordance avec le jour du vendredi. Et le jour du vendredi est le meilleur jour de la semaine. Le jour de Arafah est le meilleur jour de l'année. C'était donc une concordance et décrétée par Allah tabaraka wa ta'ala pour que la baraka se mélange à l'autre baraka. Et la baraka vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب بنمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو 40,000 رضي الله عنهم أجمعين. وجمع بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة. Au matin, il se dirigea vers Arafah, où, à Namira, il prononça un prêche monumental devant près de 40 000 de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ses recommandations très importantes avant de mourir, alayhi salatu wa sallam, où il a recommandé aux compagnons, alayhi salatu wa sallam, la soumission à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il leur a également recommandé le suivi de sa sunna, la bonté envers les épouses, respecter l'honneur des musulmans, et leur a montré que l'honneur des musulmans est sacré. Il a d'ailleurs dit à ses compagnons, votre sang et votre honneur sont sacrés comme ce jour, comme cet endroit, comme ce moment. Alors qu'on était le jour du vendredi, le jour de Arafah, à Arafah, pendant le pèlerinage. Il n'y a pas un moment meilleur que celui-là, pardon. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette occasion pour enseigner à ses compagnons l'importance de leur religion. Et donc là, les compagnons, tout doucement, commencent à comprendre qu'il va bientôt mourir, alayhi salatu wa sallam. D'ailleurs, c'est pendant ce pèlerinage qu'il leur a dit: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. Prenez de moi vos rites. Il se peut que je ne vous vois plus après cette année. Imaginez-vous un peu l'effet que cette parole va faire aux compagnons. Ils ont vécu avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont fatigués avec lui. Ils ont fourni des efforts avec lui. Ils ont quitté la Mecque, où ils étaient persécutés, ils sont allés vivre à Médine, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur argent, ils ont tout perdu, sauf le dîn. En vérité, ils ont tout gagné. Et puis, toutes ces années s'écoulent, le prophète alayhi salatu wassalam va au hajj. Ils veulent tous venir avec lui. Ils veulent être à côté de leur bien-aimé, de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il leur dit, peut-être qu'après cette année-là, on ne va plus se voir. Sallallahu عليه وسلم. ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذن ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها صلى الله عليه وسلم. Là, il effectua ensemble les prières du dhuhr et du asr, c'est-à-dire le jour de Arafah. Il demeura ensuite à Arafah jusqu'au maghrib, implorant son Seigneur. Car le pèlerin, le jour de Arafah, il va joindre et réduire le dhuhr et l'asr à 2 raka'a, à l'heure du dhuhr. Ensuite, tout le temps qu'il a jusqu'à la prière du maghrib, il va l'utiliser pour lever ses mains à Allah Azza wa Jal. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché, il a prononcé le discours de Arafah. Ensuite, il a prié dhuhr en 2, Al-Asr en 2, et tout le temps qu'il y avait jusqu'à la prière du Maghrib, ses deux mains étaient levées au ciel. Il ne les a pas rabaissées, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est à un seul moment, car il était sur le dos de sa chamelle. Le prophète a accompli le pèlerinage sur le dos de chameau. Il ne l'a pas fait en marchant. Et donc, il était en train d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, et il tenait en même temps dans ses mains les rênes, c'est-à-dire les sangles avec lesquelles on fait avancer, on fait arrêter le chameau. Et lorsque une des deux est tombée de sa main, il l'a ramassée, mais en gardant l'autre main, en train d'invoquer Allah Azza wa Jal. Il l'a ramassée et il a remis ses deux mains au ciel, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous laisse vous imaginer les invocations que va prononcer le prophète, alayhi salatu wa sallam. Je vous laisse essayer de vous imaginer comment devait être cette soumission incroyable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire apparaître à Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous laisse imaginer un peu comment va être le cœur de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu toutes ces années à prêcher Allah azza wa jalla, à affronter toutes les épreuves. Un prêche réussi, du début jusqu'à la fin. Une sunna bénie, une guidée claire, une correction de toutes les erreurs, une guidée, un apprentissage de toutes les sciences, sallallahu alayhi wa sallam. Un combat, une endurance sans pareil, un comportement magnifique, une moralité éminente, alayhi salatu wa sallam. Après tout cela, il va invoquer Allah avant de mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous un peu comment il va être. Imaginez-vous un peu comment son cœur va être, alayhi salatu wa sallam. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, continue et dit, il demeura ensuite à Arafah jusqu'au Maghrib, implorant son Seigneur. Puis il passa la nuit à Muzdalifah, où il pria l'un à la suite de l'autre, le Maghrib et le Isha. Au matin, il effectua le Fajr au début de l'heure prescrite pour cette prière, alayhi salatu wassalam. Car le neuvième jour de Dhul Hijjah, le pèlerin est à Arafah. Ensuite, lorsque le soleil se couche, il s'en va de Arafah et il se rend à Muzdalifah. Et c'est seulement à Muzdalifah, c'est une plaine, un endroit où il n'y a pas de construction, où il va y passer la nuit à dormir au sol. Et c'est seulement à cet endroit-là qu'il va prier le Maghrib et l'Isha. Bien sûr, ensuite, la sunna du witr, car il ne l'a délaissé jamais, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il va y passer la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le lendemain, le soleil se lève, il prie la prière du Fajr à son temps, il invoque Allah azza wa jalla jusqu'au lever complet du soleil et il quitte Muzdalifah de retour vers Mina alayhi salatu wa sallam. Thumma sara qabla tulu'i shamsi ila Mina farama jamrat al-aqaba ونحر وحلق ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة واختلف أين صلى الظهر يومئذ وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ ثم حل من كل شيء حرم منه. Puis, peu avant le lever du soleil, il se dirigea vers Mina où il jeta les cailloux sur la stèle d'Al-Aqaba avant d'immoler ses bêtes du sacrifice et de se faire raser la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que fait le pèlerin le jour du Eid. Il se dirige à Mina, et là-bas, il y a trois stèles. Il y a trois positions, trois endroits où nous devons lancer des pierres. Le jour du Eid, nous devons lancer une pierre sur la plus grande. Cette pierre sur la plus grande, c'est celle qui est le plus proche de Mecca. Qu'est-ce que représentent ces stèles? Elles représentent ce qui est raconté dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam de quitter Mecca où il y a laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl pour se rendre vers la Palestine, en chemin, lorsqu'il est arrivé à cet endroit où il y a actuellement les stèles, Iblis, le diable, s'est présenté à Ibrahim et lui a dit: ne laisse pas ta femme et ton enfant, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire. Pourquoi? Pour qu'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Ibrahim alayhi salam a ramassé cette pierre et lui a lancé, sallallahu alayhi wa sallam. Puis Iblis est rentré dans la terre. Ibrahim a continué à avancer. Iblis est revenu. Ibrahim, ne laisse pas ta femme, ne laisse pas ton fils, qui va les nourrir? Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger. Ibrahim alayhi salam lui a lancé cette pierre et il s'est englouti dans la terre. Puis il a avancé et à troisième moment, Iblis est revenu. Et Ibrahim alayhi salam lui a lancé cette pierre et il est rentré dans la terre. Puis il a avancé, sallallahu alayhi salam. Et c'est pour ça que nous, pendant le pèlerinage, on s'arrête à cet endroit-là et on lance les pierres. Mais ça ne veut pas dire que Shaitan est vraiment là. Car il y a des gens que vous voyez pendant le pèlerinage, même qui enlèvent leurs chaussures et qui les lancent et ils insultent Iblis.
Et ils pensent que Iblis est là et ils lancent leurs sandales. Ajib Allah. Il se dirigea ensuite vers la Mecque où il effectua le tawaf al-Ifada. Non. J'ai sauté un passage. Il se dirigea vers Mina où il jeta les cailloux sur la stèle al-Aqaba avant d'immoler ses bêtes du sacrifice et de se faire raser la tête sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a d'autres choses aussi à faire. Le jour du Eid, il y a la lapidation de la stèle, lancer les pierres. Ensuite, il y a le sacrifice de la bête. Ensuite, il y a le rasage des cheveux, où le raccourcissement et le rasage est meilleur. Ensuite, il y a le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba. Cet ordre, c'est le meilleur et c'est la sunna. Mais celui qui ne fait pas cet ordre-là n'est pas dans le péché, car le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant le pèlerinage d'Adieu, chaque fois qu'il était interrogé par des compagnons qui lui disaient « Ô messager d'Allah, j'ai fait telle chose avant celle-ci, et celle-ci avant celle-là, et celle-là après celle-ci », le prophète, alayhi salatu wassalam, leur disait tout le temps « nul grief, pas de reproche, alayhi salatu wassalam ». Mais le meilleur est la sunna sans le moindre doute. Il se dirigea ensuite vers la Mecque où il effectua le tawaf qui s'appelle tawaf al-ifada, le tawaf obligatoire comptant pour le hajj, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il ensuite accompli dhuhr à la Mecque ou à Mina. Les avis sont partagés. Nombre de savants du hadith ne parvenant pas à trancher cette question. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta entièrement l'état de sacralisation. Les savants ont divergé sur ce jour-là quant à la prière du dhuhr. L'a-t-il accompli, alayhi salatu wassalam, à Mina, c'est-à-dire une fois de retour à Mina, ou bien l'a-t-il accompli, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était dans la mosquée sacrée? Et Allah azza wa jalla est bien plus savant de la réponse. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam quitta entièrement l'état de sacralisation, sallallahu alayhi وسلم وخطب ثاني يوما يوم النحر خطبة عظيمة أيضا ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه بلغهم الرسالة. Le jour du sacrifice, il prononça un prêche tout aussi grandiose que le premier. Ici, le prophète عليه الصلاة والسلام prépare ses compagnons car il va les quitter dans peu de temps, car après le pèlerinage, la maladie de sa mort arrive, alayhi salatu wassalam. Donc, il leur prononce le discours de Arafah, ensuite, le jour du Eid, il prononce un autre discours, ensuite, il va encore prononcer un discours sur le chemin du retour une fois le pèlerinage accompli, sallallahu alayhi wassalam, où il fit des recommandations aux musulmans et les mit en garde avant de leur demander de témoigner qu'il leur avait bien transmis le message de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir appelé les gens à Allah azza wa jalla, après avoir transmis la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, leur a dit: êtes-vous témoins que j'ai accompli ma mission et transmis mon message? Et là, les compagnons ont dit: oui, au messager d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Il a levé son doigt au ciel et a dit: oh Allah, sois donc témoin. Oh Allah, sois donc témoin. Oh Allah, sois donc témoin. C'est-à-dire, sois témoin Allah que je t'ai obéi, que j'ai rempli ma mission, que j'ai respecté tout mon travail, j'ai propagé ta parole, j'ai prêché Allah, j'ai appelé les gens à ta soumission, et eux qui sont devant moi aujourd'hui témoignent tous. Sois témoin, oh Allah. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne veut pas rencontrer Allah en ayant un manque dans son devoir qu'il devait accomplir, qui est la transmission du message sallallahu alayhi wa sallam. Mais ses compagnons ont tous témoigné. Ibn Kathir a dit: فَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. C'est-à-dire, quant à nous, Nous témoignons qu'il a parfaitement transmis ce message, s'acquittant de la manière la plus sincère de la mission qui lui avait été confiée. Que la paix d'Allah l'accompagne à jamais, jusqu'au jour de la résurrection. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه. Ensuite, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم retourna à Médine alors qu'Allah avait parachevé sa religion صلى الله عليه وسلم. Voici la fin de tout ce travail et après c'est la mort صلى الله عليه وسلم. Mais sachez que le jour de Arafah, après que le prophète alayhi salatu wa salam ait prononcé son discours, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset 81 nuits avant sa mort, c'est-à-dire 2 mois et demi à peu près avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce verset vous le retrouvez dans la sourate Al-Ma'idah. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui veut dire: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé pour vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset le jour de Arafah juste avant de mourir. Dans ce verset, qu'est-ce qu'Allah dit? Votre religion est complète, votre religion est parfaite. Si elle est complète, ça veut dire qu'on ne doit rien rajouter. Si elle est parfaite, ça veut dire qu'elle n'a aucun manquement. Donc à partir de la révélation de ce verset-là, tout musulman doit prendre garde aux choses qui sont nouvelles dans la religion et que le prophète n'a pas faites, sallallahu alayhi wa sallam, et auxquelles il n'a pas appelé, les choses qu'on ne retrouve ni dans le Coran ni dans la Sunna, ce qu'on appelle la bid'a, l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de son prêche jusqu'à la fin, à chaque fois qu'il parle à ses compagnons, il leur dit la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Mohammed, et toute chose nouvelle est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Dans le feu. Il dit ça tout, à chaque fois qu'il s'adresse à eux, tous les jours du vendredi, alayhi salatu wassalam. Et avant de mourir, pour couronner le tout, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui maintenant qui révèle ce verset et qui dit: aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. C'est-à-dire, ô vous les musulmans, à partir de ce jour-là, votre religion est complète, est parfaite. Cette religion que j'ai jugée comme complète et parfaite, je n'accepte que celle-ci de vous. Si vous venez avec un acte, une parole qui contredit cette religion que moi j'ai légiférée et que j'ai jugée complète et parfaite, vous serez sous ma colère. Même si vous suivez vos ancêtres, même si vous suivez vos sectes, même si vous suivez vos groupes, même si, tant que vous contredirez la religion complète, qui ne doit pas avoir d'ajout, la religion parfaite, qui ne doit pas avoir de changement ou d'altération, vous serez sous la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce verset a été révélé dans cette date-là, ce n'est pas pour rien. Sachez qu'un juif est parti voir Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et lui a dit: nous autres les juifs, si un tel verset avait été révélé vers nous, nous aurions pris ce jour comme un jour de fête. Il va voir Omar et lui dit: nous les juifs, si nous étions ou si on était à votre place les musulmans, ce jour-là serait pour nous un jour de fête. Pourquoi? Parce que dans ce verset, votre Seigneur vous dit que votre religion est parfaite et complète. Et là, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lui dit: ce verset a été révélé un jour de fête. Il a été révélé le jour du vendredi, le jour de Arafah. Walhamdulillah. Donc la religion est parfaite, elle est complète. Où sont les musulmans qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam? ils suivent les sectes, des gens qui innovent dans la religion, qui n'ont rien à voir avec la sunna. Toute secte, toute personne qui vient avec un groupe, avec une idéologie, une pensée, une croyance, un manhaj, une méthodologie, des qawa'id, des règles qui ne sont pas dans le Coran, qui ne sont pas dans la sunna, qui ne sont pas chez les salaf, est dans la bid'a, il est dans l'innovation. Qu'est-ce que cette personne va dire devant Allah Azza wa Jalla? Qu'est-ce que ces gens vont dire, ceux qui innovent dans la façon d'invoquer Allah, soufis, les gens du soufisme, que ce soit Tijaniya ou autre, qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah Azza wa Jalla quand Allah va leur dire ma religion est complète et parfaite? Où avez-vous les compagnons faire ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce que ces gens-là vont dire, les khawarij, ceux qui sont connus pour se révolter contre les gouverneurs et pour taxer les musulmans de mécréance et toutes ces choses? Qu'est-ce qu'ils vont dire devant Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que vont dire toutes ces sectes qui sont rentrées dans la politique au lieu d'appeler les gens au tawhid et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah a dit al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, j'ai parachevé sur vous mon bienfait, wa raditu lakum al-islam adina, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Dans leur livre, ils disent qu'il faut changer la façon de prêcher. Ils disent qu'il faut changer la façon de prêcher car nous vivons une époque où les gens ont des habitudes de vie où ils ne sont plus prédisposés à accepter la vérité. Ça vient de Shaitan. Ça, là, cette parole-là, que toi, tu prononces peut-être, elle ne vient que de Shaitan. Subhanallah. Tu penses que tu es plus miséricordieux envers les serviteurs d'Allah qu'Allah, tabaraka wa ta'ala? Tu crois connaître la guidée mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? La religion est parfaite. Elle est complète. L'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullahu ta'ala, savant mauritanien, une sommité, une montagne parmi les savants de l'islam, a justement donné une conférence qui a pour titre « L'islam est une religion parfaite et complète ». Et dans cette conférence, dans l'introduction, il dit que l'islam est parfait. À partir du moment où ce verset a été révélé, il est parfait. Et Allah n'acceptera plus rien d'innover. Et d'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, a dit « Man za'ama anna fi hadha ad-din bid'atan hasana » Celui qui ose dire qu'il existe dans cette religion une bonne innovation, quelque chose de nouveau, qui est bien, « Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala » Il aura osé dire que Muhammad a trahi le message d'Allah. Il a trahi Allah. Il dit, لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم الآية. Car Allah Azza wa Jal a dit, puis il a cité ce verset, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, j'agrée pour vous l'islam comme religion. Il dit, فما لم يكن يوم إذن دينا لا يكون اليوم دينا. Ce qui ne faisait pas partie de la religion le jour de la révélation de ce verset ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Donc, les musulmans doivent craindre Allah Azza wa Jal. Et pourtant, le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de ces gens-là, soi-disant, lisent la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'en tirent aucune conclusion. Simplement, ils passent du temps. Ils lisent, mais en réalité, leur cœur est complètement absent. Ils n'en comprennent rien. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, on voit beaucoup de ces innovateurs qui passent à la télé, que ce soit l'Ikhwan al-Muslimin ou autres frères musulmans et autres parmi tous ces innovateurs égareurs et égarés. On les voit, ils utilisent souvent la sira. Ils utilisent la sira à mauvais escient. Ils ne savent même pas la raconter aux gens. Ils ne l'utilisent pas pour faire aimer la sunna aux gens. Ils l'utilisent, puis ils déforment cette sunna. Wal'iyadhu billah, pour amener les gens à ce qu'ils veulent. Résultat, les gens ont entendu de la sira, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. La sira, elle t'apprend le manhaj à suivre. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle t'apprend la voie à suivre. Elle t'enseigne que tu dois suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des salaf. C'est ça qu'elle t'apprend, la sirah. Sinon, qu'est-ce qu'elle t'apprend? Elle t'apprend le tawhid, elle t'apprend la Sunna. Et donc, ces gens-là, même s'ils passent du temps, soi-disant, à lire dans la sirah, Allah Azza wa Jal a voilé leur cœur. Wallah, ils n'en comprennent rien. Ils n'en comprennent rien. Wal'iyadu billah. Peut-être même qu'ils utilisent la sirah pour après comprendre autre chose et en déduire des choses qui n'ont rien à voir avec le dîn d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc la religion d'Allah est complète, elle est parfaite. Celui qui étudie la sirah et qui aime véridiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit suivre la sunna et délaisser toute chose nouvelle. Il doit avoir en lui cette tarbiya, cette éducation. Ah, tu fais quelque chose. Dis-moi, cette chose que tu fais, où est-ce que tu l'as apprise? Où tu as vu ça? Dans le Coran? Dans la sunna? Qui parmi les savants de la sunna a noté à partir d'un texte du Coran de la sunna qu'il fallait faire? Qui parmi les compagnons a dit? Et comme ça, tu vas préserver ta foi, tu vas préserver ta religion. Tu te préserveras de l'égarement dans la croyance, tu te préserveras de l'égarement dans les innovations, tu te préserveras de tomber dans les sectes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que s'achève le chapitre concernant le pèlerinage d'adieu, et le prochain chapitre c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sera l'objet de notre prochain cours inshallah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك